chers camarades, chers amis. Avant de passer la parole à notre camarade Nathalie Arthaud, je voudrais dire quelques mots sur la situation en Alsace. Comme partout, le patronat mène une véritable guerre contre le monde du travail. Une guerre qui fait parfois des morts, comme ce suicide d'un salarié poussé à bout, intervenu chez Orange à Strasbourg début mars. Les travailleurs ont manifesté à plus de 200 cette semaine, pour dénoncer les pressions à en faire toujours plus, et une organisation du travail axée uniquement sur le profit. Parce que dans cet ancien service public, privatisé du temps de Jospin, ne l'oublions pas, la course à la rentabilité est comme partout dans la société. Il y a d'un côté ceux qui se ruinent la santé physique ou morale au travail, et de l'autre, ceux qui se désespèrent de ne pas en trouver. Et ce chômage de masse qui touche toutes les régions, tous les secteurs, n'est en rien une fatalité. Il est voulu, programmé, organisé par le patronat et les pouvoirs publics. Pour justifier les suppressions d'emplois, on évoque souvent les petites entreprises qui auraient des difficultés. Prenez le cas de Trèche, près de Mulhouse. Depuis le mois de novembre dernier, les travailleurs sont mobilisés contre un plan de licenciement qui prévoit la suppression d'une trentaine d'emplois et la délocalisation de la mise en bouteille en Bourgogne. Ce n'est pas que l'entreprise aille mal ou soit en déficit. Non, leur direction veut rassembler la production sur un seul site au lieu de trois. Cela l'arrange, elle, mais cela n'arrange pas du tout les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi. Alors, dans cette période de chômage, ce qui doit être prioritaire, ce sont nos emplois, nos gagne-pains. C'est-à-dire qu'on devrait interdire purement et simplement toute suppression d'emplois. Cela créerait des difficultés aux entreprises, peut-être. Mais qui se soucie des difficultés que les licenciements prévus à Trèche provoqueront pour les travailleurs qui risquent de se retrouver au chômage? D'ailleurs, pour juger des difficultés réelles ou supposées des entreprises, il faudrait déjà que les travailleurs puissent savoir la réalité de leurs comptes. Ainsi, chez Trèche, le patron refuse de fournir le bilan complet de l'année dernière au comité d'entreprise. Même ce minimum légal, il refuse de le faire. Et face aux travailleurs qui se sont mis en grève mercredi dernier, il brandit la menace de poursuite au tribunal. Ces travailleurs ont mille fois raison de se battre pour défendre ce qu'ils ont de plus essentiel, leur travail et leur salaire. Face à des patrons qui ferment des sites de production dans le seul but de gonfler leurs profits, il est urgent d'imposer le maintien de tous les sites industriels, ce qui passe par la répartition du travail entre tous les bras disponibles, sans baisse de salaire. Souvent, derrière les petites entreprises, il y a de grands groupes puissants qui dictent leurs lois. Regardez ECF Schindler, une marque qu'on voit souvent dans les ascenseurs. Schindler va supprimer 96 emplois l'an prochain sur 123 postes. Autrement dit, arrêter la production de cette usine de la banlieue de Mulhouse, qui comptait encore 200 salariés il y a peu. Parce que le groupe Schindler serait en difficulté? Pas du tout. Schindler a fait plus de 500 millions d'euros de profit l'an dernier. Mais les dirigeants expliquent cyniquement qu'ils veulent sauvegarder la compétitivité de l'entreprise avec leur plan de 1770 suppressions d'emplois. On ferme une usine d'ascenseurs alors que pendant ce temps-là, dans les HLM, on continue de galérer avec des ascenseurs pas rénovés ou qui ne fonctionnent pas. Voilà toute la folie de cette société, où les moyens de satisfaire des besoins réels existent, mais où ils sont laissés en friche par une économie où seul compte le profit capitaliste. Tous les grands groupes agissent dans l'ombre et font des projets qui engagent l'avenir des travailleurs, voire de régions entières dans le dos de toute la population. En juin dernier, la CGT PSA Peugeot Citroën dévoilait ainsi un projet secret, décidé dans le huis clos de la haute direction de PSA et qui prévoit la fermeture en douce de trois usines, celle d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne, celle de Sevel dans le nord et celle de Madrid en Espagne. Sans une fuite qui a permis de mettre sur la place publique ces projets, personne n'en aurait rien su. Il ne s'agissait pas pour PSA de délocaliser la production en Chine, non. Simplement de faire tourner à plein régime les autres usines du groupe, dont celle de Mulhouse où je travaille, pour faire encore plus de profit. Car ils n'en ont jamais assez. Imaginez-vous que la famille Peugeot, principal actionnaire du groupe PSA, s'est enrichie de 1400 euros chaque minute l'an dernier, soit plus d'un SMIC toutes les minutes. Et pour enrichir les actionnaires, ils ont fort bien payé le PDG, Philippe Varin. Le PDG de PSA a ainsi été surnommé dans les ateliers « Monsieur 9000 euros ». parce qu'il a gagné tous les jours de l'année, ce qui fait, soit dit en passant, qu'il a gagné 370 euros de l'heure, même en dormant. Varin a été bien payé pour préparer les sales coups des actionnaires, parce qu'en plus de prévoir de fermer des usines, la direction a manigancé, sans doute depuis des mois, voire des années, une alliance avec General Motors, qui vient d'être rendue publique par les deux groupes. Ensemble maintenant, comme séparément hier, GM et PSA répètent qu'il y a trop d'usines, trop de travailleurs, trop de salaires à payer. Ils ont vraiment tous les culots. Mais nous, nous pensons qu'il y a trop d'actionnaires, trop de parasites, trop de grands bourgeois qui vivent sur notre dos. Et ce que nous espérons, c'est que face à l'alliance des actionnaires, nous fassions l'union des travailleurs des deux groupes. L'histoire de General Motors est un résumé éclairant de la façon dont les grandes entreprises ont traversé la dernière crise. Et les travailleurs de la GM de Strasbourg, où travaille et milite mon camarade Roland Robert, en savent quelque chose. Il y a 3 ans, le groupe General Motors s'est déclaré en faillite aux États-Unis et a été quasiment nationalisé par le gouvernement américain. L'État américain a englouti 50 milliards pour en prendre le contrôle. En un an, 13 usines ont été fermées. Et aujourd'hui, reprivatisé, le groupe GM affiche des profits records de 8 milliards de dollars. Ce sont les contribuables américains et les travailleurs de tout le groupe qui ont payé la facture. Partout, les salaires ont été laminés, l'emploi écrasé, les conditions de travail dégradées sous le prétexte de la crise. Mais les actionnaires n'ont jamais cessé de s'enrichir. Rien qu'à l'usine de Strasbourg, les bénéfices ont explosé l'an dernier et ils se sont élevés à 60 millions d'euros. Et s'ils ont explosé, c'est parce qu'en 3 ans, plus de 400 emplois ont été supprimés et que la direction a exigé en 2010 une baisse de la masse salariale de 10% par la suppression de jours de RTT, le gel des salaires et des primes et avec une aggravation des conditions de travail. Pour les travailleurs de l'usine, la vie est rythmée par des périodes de chômage partiel payées par l'État, 39 jours de chômage partiel au premier semestre, et des périodes où l'on travaille à plein régime. Voilà comment le patronat nous fait payer la crise, alors qu'il n'en paye pas un centime. Alors c'est pour cela que nous dirons dans cette élection, à travers la candidature de notre camarade Nathalie Arthaud, que ce n'est pas aux travailleurs de continuer à payer pour la crise du capitalisme, et que nous avons le droit moral de refuser de payer une facture qui n'est pas la nôtre. Si la situation des travailleurs se dégrade dans le privé, il en va de même dans le public, particulièrement dans les hôpitaux où la situation s'est détériorée. Ainsi, l'hôpital de Célestat affiche un déficit d'un montant de 2,5 millions d'euros. Parler de déficit pour un hôpital est déjà en soi complètement aberrant. Soigner des gens, prendre soin des malades, cela coûte et c'est normal. Je dirais même que c'est tant mieux, parce que cela veut dire que la société peut soulager ceux qui souffrent. Mais voilà, du fait de ce déficit, la direction de l'hôpital de Célestat veut supprimer du personnel, comme dans n'importe quelle entreprise privée. En fait, l'hôpital de Célestat est plombé par des emprunts toxiques distribués par la banque Dexia. Les pouvoirs publics ont injecté des dizaines de milliards pour sauver les actionnaires de Dexia de la faillite, mais ils laissent aux collectivités locales le soin de régler ces emprunts toxiques délivrés par les banquiers. Ces emprunts de Dexia vont coûter à l'hôpital 5,7 millions d'euros de surcoûts, plus du double du déficit de l'hôpital, pour un emprunt de seulement 13,8 millions. Mais c'est au personnel qu'on demande de partager les efforts et de faire des sacrifices. Ce sont des postes qu'on supprime, tandis que Dexia est remboursé rubis sur l'ongle. Alors le personnel des hôpitaux n'a aucune, mais vraiment aucune raison d'accepter de se tuer au travail pour que les actionnaires de banques comme Dexia puissent racketter les services publics et enrichir leurs actionnaires. Sarkozy et Hollande ne se heurtent pas beaucoup sur la question du chômage, ils sont en opposition sur le nucléaire. Pour séduire l'électorat écologiste, mais vu le niveau des sondages pour la candidate des Verts, il n'a pas besoin de déployer les trésors de séduction, Hollande a promis de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. C'est la plus vieille du pays et en plus elle est située dans une zone sismique. Cela a suscité l'inquiétude bien légitime des travailleurs de la centrale, qui se sont demandé de quoi leur avenir sera fait. Et cela suscite une inquiétude encore plus grande pour ceux que l'on appelle les nomades du nucléaire, les très nombreux sous-traitants qui ne sont pas embauchés directement par EDF, mais sans qui les centrales nucléaires ne fonctionneraient pas. Hollande a promis que les emplois seraient sauvegardés à Fessenheim. Sarkozy, lui, est venu sur place début février pour affirmer la main sur le cœur, et je le cite, « Je n'accepterai jamais qu'on ferme la centrale de Fessenheim ». Alors, s'il y avait encore des travailleurs pour croire une seule parole de Sarkozy, il suffit juste de leur rappeler, sans même évoquer ses promesses au sidérurgiste de Gandrange, qu'en avril 2004, à la centrale nucléaire de Chinon, il déclarait avec beaucoup d'assurance, et je le cite à nouveau, « Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et de Gaz de France, c'est clair, c'est simple et c'est net ». Mais en août de la même année, EDF a été partiellement privatisé, même si on préférait parler alors pudiquement d'ouverture du capital, ce qui revient au même. On ne sait pas qui, de Sarkozy ou de Hollande, aura l'occasion de fouler aux pieds ses promesses. Mais que l'un ou l'autre passe, il est certain qu'il faudra que les travailleurs se défendent pour sauvegarder leur emploi, tous les emplois, y compris ceux des sous-traitants. Entre la droite et le Parti Socialiste, il n'y a bien sûr pas que des sujets qui fâchent, il y a aussi bien des sujets d'accord. Je veux parler du statut d'Alsace-Moselle, et en particulier de ce concordat qui, depuis 1802, régit les rapports entre l'État et les Églises. Le concordat a été aboli en 1905, dans la France de l'époque, sans l'Alsace-Moselle, où, malgré le rattachement de 1918, le concordat est toujours en application. Depuis 94 ans, aucun gouvernement de gauche n'a osé s'en prendre aux intérêts des clergés, pas plus celui du Front populaire que ceux de Mitterrand et de Jospin, où siégeait d'ailleurs un certain Jean-Luc Mélenchon, qui a trouvé qu'ils avaient fait du bon travail et qui n'est aujourd'hui pas avare de phrases sonores sur la défense de la laïcité. Dans le budget, l'État a prévu la somme de 58 millions d'euros pour le financement des cultes, essentiellement pour l'Alsace-Moselle où les clergés, catholiques, protestants et israélites, sont payés par les fonds publics. L'Église catholique en tire le principal bénéfice, puisque les trois quarts de cette somme lui reviennent. Cela permet de rémunérer près de 1400 curés, pasteurs ou rabbins. Il faut noter qu'il n'est pas question pour le gouvernement de diminuer le nombre de curés, alors qu'il vient d'annoncer 409 suppressions de postes dans le primaire et le secondaire en Alsace, ainsi que 89 postes de RASED, des enseignants des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Dans une envolée du début de sa campagne, Hollande avait promis d'inscrire la laïcité dans la Constitution. Aussitôt, Philippe Richert, ministre UMP et président de la région Alsace, avait dénoncé la remise en cause du Concordat. Et il avait été rejoint par le maire PS de Strasbourg, Roland Ries. Hollande a vite fait marche arrière en écrivant aux trois cultes reconnus qu'il inscrirait aussi dans la Constitution le caractère spécifique de l'Alsace-Moselle. C'est dire que loin d'être combattu, le Concordat sera conforté par la gauche. Et cela, c'est une promesse dont on peut être sûr qu'elle sera tenue par Hollande. Même quand il ne s'agit pas de s'attaquer aux puissances d'argent, la gauche est timide. Alors, pour s'en prendre au patronat, qui a autrement de moyens que les soutanes, les travailleurs ne peuvent compter que sur leur lutte. Et c'est cela qu'exprimera le vote pour notre camarade Nathalie Arthaud, la seule candidate communiste à cette élection présidentielle, et je lui passe la parole.